Le journal Innocent Olenga.
Attaque armée à la résidence du président de l'Observatoire national des droits de l'homme, Michel Innocent Pingachibassou, lie cette attaque aux multiples dossiers sensibles définis par son institution. Les journalistes attachés de presse ou accrédités auprès des hommes politiques sont interdits de prester à des rédactions pendant cette période électorale. La décision est de la haute autorité des médias. Vous entendrez Modeste Moutinga dans ce journal. La peste pulmonaire fait des victimes à Bouba et Pandroma en Ituri. Déjà, l'OMS Bounia parle d'une dizaine de morts enregistrées en un mois. Bonjour à tous. Le président de l'Observatoire national des droits de l'homme, le bâtonnier Michel Innocent Pingachibassou et sa famille échappent à une attaque armée à leur domicile. Attaque menée par un groupe d'hommes en uniforme et cagoulés dans la nuit de mardi à mercredi dernier. D'après un communiqué de presse de l'ONDH, les assaillants ont détalé après 5 minutes d'échange de tirs nourris avec les policiers commis à la garde du bâtonnier, laissant derrière eux quelques effets militaires. Selon le président de l'ONDH, cette attaque aurait un lien avec les multiples dossiers sensibles qui sont sur la table de sa commission. Il a été joint au téléphone par Blaise Chindani Kambali.
Nous sommes pour l'instant en train de suivre des dossiers sensibles à l'Observatoire national des droits de l'homme. Je pense que il y a des gens qui ont intérêt que nous nous taisons et que nous taisons à jamais. Mais je pense que d'ici là, l'Observatoire va rendre public tous ces dossiers qui sont sensibles, qui sont sur nous. Voilà.
Restons à Kinshasa où les militants de l'UDPS et leurs alliés, notamment les FONUS, ont organisé une nouvelle marche hier mercredi, commencée dans l'après-midi à Kingasani et s'est dirigée vers le centre-ville de Kinshasa. Les partisans de l'UDPS et autres alliés réclament l'ouverture des négociations avant la tenue des élections. C'est la deuxième marche en 3 jours. Le gouverneur de Kinshasa, Kimbembe Mazunga, a été brutalisé au cours de cette manifestation. Couverture médiatique de la campagne électorale en RDC, la haute autorité des médias vient encore de frapper. Les attachés de presse, les conseillers en communication, les journalistes et reporters détachés auprès des institutions publiques ainsi que des journalistes candidats au prochain scrutin sont interdits de prester au sein de leur rédaction. Plus question pour eux de présenter les journaux ni animer les débats, moins encore réaliser des émissions pendant cette période d'avant et pendant les élections. C'est ce que la Haute Autorité des médias a expliqué aux journalistes congolais hier mercredi à son siège. Écoutez à ce sujet Modeste Moutinga, président de cette institution d'appui à la démocratie. Il est interrogé par Nazaire Nkoko.
Tous les journalistes ont tissé des relations d'affinité avec les animateurs de différentes institutions pour éviter que leurs prestations à l'antenne, sur le plateau, ne puissent avoir une empreinte de propagande. C'est dans le but de préserver la neutralité de la part des professionnels des médias.
Quelles mesures prenez-vous pour vous assurer du respect de cette décision?
Nous avons intéressé les directeurs de programme, les directeurs de publication. Nous leur avons demandé de nous communiquer dans les 72 heures les listes journalistiques pour que nous sachions qui a été où, qui a fait quoi. Nous avons mis en place la commission de vigilance et d'éthique électorale. S'il y a dérapage, la Haute Autorité des médias va statuer en procédure d'urgence et de flagrance et on prendra des mesures immédiates, même s'il s'agit de fermer une chaîne de télévision ou une station de radio.
S'agissant justement des journalistes, l'un d'eux, Sostène Pierre Kambidi de Radio Concorde National FM de Tshikapa, est en liberté provisoire depuis hier. Information confirmée par l'ARCO, Association des radios communautaires et associatives du Congo, et par GED, journaliste en danger. D'après GED, les journalistes ont payé une caution de 20 000 francs congolais. ARCO, pour sa part, exige que toutes les charges portées contre Sostène Pierre Kambidi soient retirées. Les journalistes de Concorde National FM étaient condamnés à 3 mois de prison ferme pour diffamation, alors que d'après GED et ARCO, Sostène Pierre Kambidi aurait tout simplement dénoncé sur sa radio une bavure policière. Province de l'Équateur, un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à l'hôpital général de Bolingué, à 9 km de Mbandaka. Matériel et médicaments ont pris feu. Pas de victimes, mais les malades présents ont perdu tous leurs biens. À cette heure, on ne connaît pas toujours avec exactitude l'origine du feu. Mbandaka Askenzibia Tayoro.
L'hôpital de Bolingué n'existe que de nom maintenant. Le bloc opératoire, les dépôts pharmaceutiques, le laboratoire et les pavillons, tout est calciné par cet incendie qui a commencé aux environs de 23 heures. Aucune intervention pour stopper l'avancée des flammes, ont dit les malades qui ont eu la vie sauve. Mais ils ont perdu tous leurs biens. entre autres les casseroles, les vêtements et autres ustensiles de ménage. Selon le médecin directeur de cet hôpital, une recette d'un mois évaluée à plus d'un million de francs congolais a été consumée, y compris tous les médicaments d'une valeur de 3 600 000 francs congolais stockés dans le dépôt pharmaceutique. Seule la maternité et le bâtiment administratif ont échappé à ce feu. Pour l'instant, les victimes ne sont pas encore assistées. Les autorités locales et les humanitaires se déplacent sur le lieu du drame pour s'enquérir de la situation et projeter des assistances. Par ailleurs, le responsable de cet hôpital ne connaît pas encore la cause exacte de cet incendie. Selon certains habitants de Bolengué, un court-circuit du groupe électrogène serait à la base de cette calamité. L'hôpital de Bolengué ne semble plus à réhabiliter. La toiture de son bâtiment est complètement carbonisée et le mur endommagé par la forte chaleur du feu. Il serait à reconstruire. De Mbandaka à Skenzig Biatayoro, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, plus de 70 familles, sont plus ou moins 300 personnes du quartier Jamaïque dans la commune de Kintambo ont été chassées hier de leurs habitations par les éléments de la police nationale. Selon l'un de ses habitants, l'ordre du déguerpissement émane du parquet général de Kinshasa. Toujours selon la même source, il s'agit d'un conflit parcellaire opposant trois personnes. Pour l'instant, ces familles passent la nuit à la Belle Étoile, à l'extérieur de la concession Kérélée. Écoutez l'une des victimes témoigner au micro de Guy Roger Nyampala.
Auparavant, nous sommes entrés comme des locataires. On payait et ainsi de suite. Après, il y a eu décision de tribunal qu'on entend jusqu'à ce qu'on nous présente le nouveau bailleur. Mais, à notre grande surprise, nous avons vu l'huissier du tribunal avec des policiers de PP pour le déguerpissement. Et c'était hier, vers 9h. Ils sont entrés avec l'acte de déguerpissement signé par le procureur général. Bon, d'après eux, c'est depuis le mois de décembre que nous étions au sommet. Mais jusque-là, nous sommes ignorants. On n'a vu personne venir nous donner de préavis. C'est pour cela que nous sommes en dehors, passer la nuit à la Belle Étoile, les enfants, hein, vous voyez vous-même comme nous. Nous sommes ici 73 familles. 73 familles, si vous multipliez par deux, et plus les enfants adultes, nous sommes plus de 500 âmes ici.
Célébration de la journée mondiale du don du sang hier. À Kinshasa, le nombre de donneurs bénévoles de sang est en hausse. Affirmation du médecin directeur du Centre national des transfusions sanguines, d'après le docteur Sylvain Yuma Ramazani. La ville de Kinshasa réalise depuis l'année dernière 45% des donneurs bénévoles de sang contre 13% en 2002, date de la création du centre. Mais la quantité du sang fourni répond-elle à la demande? Réponse du docteur Yuma Ramazani au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Si l'on considère que la ville de Kinshasa, le besoin en sang est estimé à 70 000 unités de sang par an. Et au moment où je vous parle, ce besoin n'est pas totalement couvert. Parce qu'il y a des coins effectivement où les gens meurent parce qu'on ne sait pas leur donner le sang. Mais je dois vous avouer qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolution en rapport avec les dons bénévoles de sang. On était dans une proportion de 13% par rapport aux donneurs bénévoles de sang. Mais aujourd'hui, ce pourcentage est arrivé à 45%. Mais il faut se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'ici, il y a tous les volets liés à la religion, à la culture, ou parce que nous sommes africains, ça, il ne faut pas oublier. Et que le sang a une signification un peu particulière. Pour un Africain, faire couler le sang comme ça, il faut qu'il y ait un événement. Il y a des gens qui ont encore des idées préconçues en disant « si je donne mon sang, je risque de mourir » ou bien « si je donne mon sang à quelqu'un ». Qui est voleur, il va devenir aussi voleur. En fait, c'est des choses, il y a beaucoup de préjugés autour de ça.
Sentez toujours la peste pulmonaire déclarée dans les localités de Bouba et de Pandroma, situées à une centaine de kilomètres au nord-est de Bounia, n'est toujours pas maîtrisée. Selon l'OMS à Bounia, 10 à 15 cas sont enregistrés par semaine. Et depuis un mois, 93 cas de personnes atteintes et 19 cas de décès ont été enregistrés dans ces deux localités. Une équipe conjointe de l'OMS, des Médecins sans frontières et du ministère de la Santé est à pied d'œuvre sur place pour aider les autorités sanitaires locales. Au micro d'Aliana Alipanagama, docteur Laurent Kapound, médecin épidémiologiste de l'OMS à Bounia, fait l'état des lieux.
Pour le moment, nous avons laissé des équipes d'intervention. Il y a une équipe qui s'occupe de la surveillance pour rechercher les cas et suivre le contact. Il y a des équipes pour la prise en charge, donc pour les soins des malades, et ce sont des soins gratuits. Et il y a les équipes aussi pour aider les populations de ne pas manipuler les morts. Et ils vont les aider à préparer le corps et les enterrer pour qu'ils ne s'infectent pas. Alors, quant au cas, bon, on est en train d'avoir autour de 10 à 15 cas par semaine, donc pour le moment. Et quand nous avons quitté, on était autour de 93 cas. Mais nous avons totalisé 19 décès.
Une délégation mixte PNUD, Institut congolais pour la conservation de la nature et INOPS vient de visiter cette semaine les parcs nationaux des Kundilungu au centre d'Ikatanga. Selon l'administrateur délégué général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et chef de délégation, ce parc contient encore certaines espèces que l'on croyait disparues. C'est le cas des éléphants, des zèbres, des antilopes et même de certains oiseaux. À ce sujet, Robert Becker, conseiller technique principal du projet Réhabilitation des aires protégées en RDC, déclare que son programme va permettre d'établir des moyens de communication et de lutter contre les braconnages. On l'écoute, il est au micro de Denise Mayo.
On va commencer avec un appui, un outil pour les gardes et les conservateurs de ce parc, qui va consister de voitures, motos, vélos et de moteurs hors bord. En plus, pour faciliter la lutte anti-braconnage, on va fournir le parc avec un nombre de tentes pour faciliter des patrouilles de plus de journée. On va aussi installer à Kundilungu un radio HF combiné avec un ordinateur. Comme ça, le personnel du parc sera capable d'envoyer des messages écrits par email à Kinshasa et de recevoir des messages. Une partie des matériels sont déjà arrivés sur place à Lubumbashi. On va essayer de combiner une remise-reprise avec la fin de la formation des gardes, probablement dans le mois qui vient.
Signalons que le projet de réhabilitation des aires protégées en RDC est financé principalement par les Fonds mondiaux pour l'environnement et les PNUD. Son coût sur l'ensemble du pays est de 6 millions et demi de dollars américains. Au Nord Kivu, plus question désormais de transporter passagers et marchandises à bord d'un même véhicule. Décision du gouverneur du Nord Kivu visant officiellement la réduction des cas d'accidents dus à ces modes de transport. Déjà à Goma, certains commerçants pensent que cette décision n'est pas de nature à favoriser leurs affaires, surtout pour ceux qui exploitent l'axe Goma-Ishasha vers la frontière avec l'Ouganda. Gisèle Cage.
Pas plus loin qu'au mois de mai dernier, un véhicule chargé des sacs de haricots, des pommes de terre et des passagers accrochés sur des marchandises s'est renversé sur le bord de la route entre Goma et Masisi. Bilan de cet accident, 10 morts et uniquement 2 rescapés. D'autres cas similaires sont nombreux avec comme dénominateur commun le chargement des marchandises et passagers à bord de même véhicule. Pour le gouverneur du Nord Kivu, ces modes de transport ne s'expliquent pas de nos jours. Et je ne suis refoulé.
Tout d'abord, il faut savoir que ces camions n'ont même pas l'autorisation de transporter les personnes. Lorsque rarement ils sont assurés, c'est probablement pour deux personnes, les chauffeurs et les déchauffeurs. Si on a toléré cela, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de transport. Mais maintenant, il y a des minibus partout. Et surtout, cette population doit comprendre que c'est pour son intérêt.
Un intérêt qui n'est pas rencontré par tous les concernés. Pour le marchand du poisson, par exemple, qui font le tronçon routier Goma-Ishasha, le seul moyen de déplacement pour atteindre ou quitter Ishasha reste le gros camion qui prend passagers et marchandises à la fois.
Nous, vendeurs de poissons salés, nous n'avons que deux axes pour nous ravitailler. Les minibus vont à Bunagana. Seuls les camions Fousson vont à Ishasha. Même si vous prenez les minibus, votre marchandise sera chargée à bord d'un camion Fousson. Faut-il abandonner la marchandise? Il sera détourné.
La mesure entre en vigueur après le 29 juin prochain. En attendant, la police de roulage a été chargée de sensibiliser les transporteurs. Gisèle Cage, Goma, Radio Okapi.
En page internationale, en Afghanistan, une bombe a explosé dans un autobus en plein centre de Kandahar, faisant 10 morts et 15 blessés, a annoncé ce matin la police. Cet autobus transportait des Afghans employés sur une base de la coalition dans le sud du pays. Il s'agit d'un des attaques les plus meurtriers à viser des Afghans travaillant pour les forces de la coalition. Plus de 650 000 Irakiens ont fui leur pays pour se rendre en Jordanie ou en Syrie depuis début 2005, selon un rapport du Comité américain pour les réfugiés publié hier aux États-Unis d'Amérique. D'après ce rapport, l'Irak est le troisième pays du monde en termes de réfugiés avec 880 000 exilés, le nombre des réfugiés irakiens n'est dépassé que par celui des réfugiés palestiniens et afghans. Voilà, ça n'est si fini avec ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.radiokapi.net, mais aussi en ondes courtes sur 11 690 kHz de 5h à 7h et de 17h à 19h de Kinshasa. Bonne suite des programmes sur Radio Capi.